dans cette rue tranquille.
Histoire de cinéma, Jean-Philippe Gunet.
Un mystère se révèle.
Coulisses, anecdotes, secrets de tournage.
Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel. Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel.
Redécouvrez les plus grands films autrement.
Et une aventure commence.
La semaine dernière, je vous avais raconté la jeunesse de Olivia de Havilland, britannique née au Japon, émigrée en Californie avec sa mère ainsi que sa sœur, la future Joan Fontaine. En 1935, elle a 19 ans et compte déjà un rôle notable, celui de Hermia, dans une adaptation de Songe d'une nuit d'été. Dans la foulée, elle tourne dans un film d'aventure, elle n'a pas encore percé, son partenaire Errol Flynn n'a pas percé lui non plus. Le film, donc, s'appelle Captain Blood. Il est réalisé par Michael Curtiz, le futur cinéaste de Casablanca. Il sort le 19 décembre 1935. C'est un succès au box-office avec 2 500 000 dollars de recettes, en comptant les États-Unis comme le marché international. Cette réussite profite évidemment à Olivia de Havilland qui y gagne sa célébrité. L'année suivante, en 1936, elle retrouve Michael Curtiz pour la charge de la Brigade Légère. Et en 1938, le cinéaste reforme son duo avec Errol Flynn dans Les Aventures de Robin des Bois. C'est bien sûr Errol Flynn qui joue Robin des Bois, alors que Olivia de Havilland est Lady Marianne. Jack Warner en personne, le patron du studio, l'a choisi. Son duo avec Errol Flynn fonctionne à la perfection, comme dans cet extrait où Lady Marianne dit à Robin des Bois son étonnement. Son étonnement pourquoi ? Du fait que Robin veuille sincèrement corriger des injustices.
You're a strange man.
Strange ? Because I can feel for beaten, helpless people.
No, you're strange because you want to do something about it. You're willing to risk your own life. And one of those men was a Norman.
Norman or Saxon? What's that matter? It's injustice I hate, not the Normans.
But it's lost you your rank, your lands. It's made you a hunted outlaw when you might have lived in comfort and security. What's your reward for all this?
Reward? I just don't understand, really.
Olivia de Havilland comme Errol Flynn reconnaîtront d'ailleurs avoir été attirés l'un par l'autre, mais sans qu'une relation puisse démarrer. Couple à l'écran, donc, mais pas à la ville. Tout comme Captain Blood, Les Aventures de Robin des Bois est un gros succès, il deviendra même un des films d'aventure les plus populaires de l'histoire d'Hollywood. Olivia de Havilland est plus qu'une célébrité, elle est désormais une star internationale. Elle ne veut pas se cantonner au cliché de la demoiselle en détresse. Elle devient très vite exigeante sur ses rôles. Et justement, le personnage de Lady Marianne lui a plu parce qu'elle ne se contente pas de rester passive. En 1938, elle a 22 ans. Elle est un temps en couple avec le milliardaire, producteur et réalisateur Howard Hughes. Vous vous souvenez, celui que joue Leonardo DiCaprio dans Aviator. Mais il ne voulait pas l'épouser, elle a donc mis fin à leur idylle. Elle aura aussi une relation avec l'acteur James Stewart. Elle aura aussi une relation avec l'acteur James Stewart. À cette époque, le producteur Davido Selznick est en train de préparer le tournage d'Autant en emporte le vent. Il rêve d'engager Olivia de Havilland pour incarner Melanie Hamilton. L'actrice est intéressée, elle est sensible à la dignité du personnage, ainsi qu'à sa force morale et son intégrité. Mais le studio Warner qui l'a sous contrat n'a pas envie de la prêter à la MGM qui distribuera Autant en emporte le vent. Olivia de Havilland se tourne donc vers la femme de Jack Warner. À elle deux, elles le font céder. Olivia de Havilland peut donc jouer Melanie. Le tournage débute le 26 janvier 1939. Trois semaines plus tard, le réalisateur Georges Cukor est renvoyé et remplacé par Victor Fleming. Olivia de Havilland et Vivien Leigh, qui incarnent Scarlett O'Hara, décident de continuer de travailler en secret avec Georges Cukor. et je peux vous garantir qu'Olivia de Havilland est l'incarnation parfaite de Melanie Hamilton. Elle en a la grâce et son style britannique cadre idéalement avec le côté réservé et digne du personnage. Par exemple, dans cette scène, située au début du film, Melanie décide de donner son alliance à un militaire qui collecte les bijoux pour le compte du Sud confédéré afin de les fondre et récupérer l'or. Un sacrifice personnel qui n'échappe pas à Red Butler, présent aussi ce soir-là.
Wait. On behalf of Mrs. Wilkes and Mrs. Hamilton.
Thank you, Captain Butler.
Just a moment, please.
But is your wedding ring mad?
It may help my husband more. Off my finger.
Thank you.
It's a very beautiful thing to do, Mrs. Wilkes.
Le rôle de Melanie vaut à Olivia de Havilland sa première nomination aux Oscars. Un Oscar qui reviendra à Hattie McDaniel, première comédienne noire à le recevoir. Immédiatement après avoir bouclé Autant en emporte le vent, Olivia de Havilland retrouve Michael Curtiz et Errol Flynn dans la vie privée d'Elisabeth d'Angleterre. Mais elle n'a que le troisième rôle après Bette Davis et Errol Flynn. En fait, elle espérait qu'Autant en emporte le vent fasse d'elle une tête d'affiche à la Warner et qu'elle puisse obtenir des rôles vraiment intéressants. Espoir déçu, donc, au point qu'au début de 1940, elle commence à refuser de tourner les scénarios que la Warner lui demande de faire. À l'époque, c'est quelque chose d'énorme. Les acteurs et actrices sous contrat avaient l'obligation de tourner tous les rôles qui leur étaient donnés et Olivia de Havilland n'a que 24 ans. Ce coup de tonnerre lui vaut une première suspension de la part de la Warner. Elle en aura d'autres. En fait, elle ne refuse pas tout non plus. Elle joue notamment dans La Piste de Santa Fe, à nouveau avec Errol Flynn devant la caméra de Michael Curtiz. En tout, Errol Flynn et elle auront partagé l'affiche de 9 films. Le 13 décembre 1940, le soir de la première, l'actrice est opérée en urgence pour une appendicite. Naturalisée américaine en novembre 1941, Olivia de Havilland n'est pas contente des rôles que la Warner lui demande. Elle estime que Jack Warner ne la voit que comme une ingénue et veut des personnages plus complexes. En 1943, au terme de ses 7 ans de contrat, elle découvre que ses obligations sont prolongées de 6 mois pour compenser le temps perdu lors de ses suspensions. Une disposition que Bette Davis avait tenté de contester en vain. Olivia de Havilland porte l'affaire en justice. Après un an de procédure, elle obtiendra gain de cause. Les studios n'auront plus le droit de prolonger la durée des contrats en cas de suspension. Une révolution à Hollywood qui offrira plus d'indépendance aux comédiens et vaudra à Olivia de Havilland la reconnaissance et l'admiration de ses pairs. La semaine prochaine, je vous raconterai donc la suite de sa carrière, et notamment ses deux Oscars, et je vous parlerai aussi de sa rivalité avec sa sœur, Joan Fontaine, qui a tourné à la guerre ouverte sans qu'il n'y ait jamais eu de réconciliation.
C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet. À retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com.